En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, l'hydrogène est présent dans tout ce qui nous entoure. Il compose en partie l'eau, H2O, mais aussi le sucre, les protéines et les hydrocarbures. Il est également le principal constituant du Soleil et des étoiles, dont l'énergie provient de réactions de fusion thermonucléaire. Et c'est sur cette fusion, provoquant une énergie très intéressante, que les chercheurs travaillent pour pouvoir à terme remplacer les énergies fossiles, telles que le pétrole et le charbon, par de l'hydrogène, énergie propre et inépuisable. Les scientifiques parlent plus exactement de piles à hydrogène qui pourraient, dans une cinquantaine d'années, faire fonctionner nos voitures et nos avions. Nous vous proposons dans quelques instants d'écouter les interventions de Marc Fontecave et de Nicolas Bardi lors d'une séance de l'Académie des sciences consacrée au défi de l'hydrogène. C'était le 1er avril 2008. Nicolas Bardi, chef du programme Piles à combustible au CEA, présente cet objet qui pourrait bien à terme remplacer nos moteurs. Mais tout de suite, Marc Fontecave, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université Joseph Fourier à Grenoble, où il dirige le laboratoire de chimie et de biologie des métaux, il nous présente les enjeux de telles recherches sur un plan économique, mais également sur un plan environnemental. Marc Fontecave.
En juin 1783, Lavoisier, assisté de Pierre-Simon Laplace et Jean-Baptiste Meunier, présentait à l'Académie des sciences un rapport sur la synthèse de l'eau, composé, je cite, « poids pour poids d'air inflammable et d'air vital ». Cet air inflammable est appelé hydrogène, c'est-à-dire qui produit de l'eau. En avril de l'année suivante, il présente à l'Académie un procédé quasi-industriel de production d'hydrogène en grande quantité par action de l'eau sur le fer rouge. Plus de 200 ans après, la question nous est posée de savoir si l'hydrogène peut et va constituer le combustible du futur. Si en quelque sorte les sociétés humaines vont réussir ce qui constituera sans aucun doute l'une des grandes révolutions de leur histoire, à savoir le passage de l'ère du carbone à une nouvelle ère, celle de l'hydrogène, durant laquelle, rêvons presque pour l'éternité, les besoins énergétiques de l'humanité seront assurés, d'abord grâce à l'oxydation de l'hydrogène, du gaz hydrogène, et peut-être plus tard grâce à la fusion contrôlée d'isotopes de l'hydrogène, comme cela se produit dans le Soleil. Cette question nous est posée pour des raisons que tout le monde connaît, mais qu'il est bon de rappeler. Premièrement, compte tenu d'une part de l'accroissement de la population mondiale, qui devrait passer d'ici 2050 de 6 à 9 milliards d'habitants, et d'autre part de la croissance de pays émergents, on va assister à un doublement de la demande énergétique en 40-50 ans. Deuxièmement, toutes les politiques énergétiques durables vont devoir tenir compte de la nécessité de limiter autant que possible les émissions de gaz à effet de serre, et en particulier le dioxyde de carbone. Enfin, il est aujourd'hui bien établi que les réserves carbonées fossiles, pétrole, gaz, charbon, qui constituent à l'échelle mondiale 80% des sources primaires, sont limitées et seront épuisées dans des échelles de temps tout à fait inquiétantes. Il ne reste du charbon que pour un peu plus de 200 ans environ, du gaz pour un peu moins de 100 ans et du pétrole pour 50 ans. On oublie souvent de dire qu'il en est de même pour l'uranium. Avec les réacteurs nucléaires de la technologie actuelle, on peut estimer la fin de l'énergie nucléaire dans moins de 100 ans, ce qui soulève inéluctablement la question du développement rapide des surgénérateurs qui permettraient d'exploiter cette énergie pendant environ 300 ans. Il est donc urgent de trouver d'autres sources d'énergie et de développer massivement la part des énergies durables. En mettant en œuvre de nouvelles technologies pour transformer ces énergies en vecteurs énergétiques, l'électricité bien sûr, mais aussi l'hydrogène. Il est clair que les pays qui réussiront cette révolution, les premiers et qui maîtriseront ces technologies, auront un avantage compétitif considérable. Alors pourquoi l'hydrogène ? Essentiellement parce que, comme vous pouvez le voir dans le bilan très simple de cette réaction, il s'agit d'un combustible remarquable, à la fois parce que sa combustion produit beaucoup d'énergie et son énergie massique est supérieure à celle du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Deuxièmement, il n'y a pas de production concomitante de dioxyde de carbone, mais uniquement de l'eau. Jules Verne, optimiste et visionnaire en 1874, avait déjà compris les potentialités de cette réaction. Dans l'île mystérieuse, et tout le monde connaît ces phrases-là, c'est intéressant de le revoir, à Pencroff qui demande « qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ?» Cyrus Smith répond « l'eau ». Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait savoir. Et à la fin, il dit « Ainsi donc, rien à craindre ». Cette réaction chimique sera à l'avenir essentiellement associée aux technologies des piles à combustible, qui permettent de transformer l'énergie chimique de la molécule d'hydrogène en énergie électrique. Dès lors que sur l'anode, il y aura oxydation de l'hydrogène pour donner les électrons et que ces électrons, parcourant un circuit, arriveront sur la cathode, où ils serviront à réduire l'oxygène en eau. Nicolas Bardy nous expliquera le fonctionnement, les différentes technologies à développer, les problèmes posés par ces technologies et les solutions qui peuvent être apportées dans son exposé intitulé ici « Les piles à combustible, une technologie qui bute sur des questions scientifiques ». Alors qu'un véritable plan d'action européen sur l'hydrogène et les piles à combustible est en train de se mettre en place, réunissant plus de 50 industriels, 50 centres de recherche et la Commission européenne, et avec un budget d'1 milliard d'euros sur 6 ans, alors que l'Allemagne a mis en place un plan d'accompagnement de 1,4 milliard d'euros sur 10 ans, et d'autres pays européens comme le Royaume-Uni mobilisent leurs PME, leurs start-up, leurs grandes entreprises dans le développement des piles à combustible, la France est insuffisamment positionnée. Malgré de nombreux atouts, une excellente recherche de base et technologique dans les domaines de la chimie des membranes, la catalyse, les procédés biologiques de production, les matériaux. Et également des industriels leaders dans les domaines énergétiques ou gaziers, Air Liquide, Areva, Saint-Gobain, Total, etc. EDF. Donc malgré cela, on observe une faiblesse grave des financements des programmes. Il n'y a pas que des raisons financières qui explique le retard pris depuis Jules Verne pour la mise en place de l'économie dite à hydrogène. Il y a sans doute toute une raison économique, scientifique et technologique. Le premier grand inconvénient de l'hydrogène est qu'il n'est pas disponible sur Terre autrement que combiné à d'autres atomes et qu'il faut donc le produire à partir de ces molécules stables, l'eau, les hydrocarbures, la biomasse, les hydrures, etc., et que cette production coûte de l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, pour des utilisations en production industrielle de l'ammoniac essentiellement, mais également pour la production d'autres produits chimiques comme le méthanol, l'eau oxygénée, et ainsi que dans des applications de type raffinage de pétrole, l'hydrogène est produit à 98% à partir d'hydrocarbures, ici comme le méthane. Mais ces procédés dits de reformage ne sont ni économiques, et ni écologique, puisque, comme vous le voyez, ça s'accompagne d'une production de dioxyde de carbone. La production d'hydrogène à partir de l'eau, par électrolyse, avec de l'électricité de préférence venant d'énergie renouvelable, ou par traitement thermochimique, ou encore à partir de la biomasse, ne constitue aujourd'hui qu'une part infime de la production totale. La priorité doit être mise sur l'utilisation de ressources renouvelables, et en particulier le rayonnement solaire comme source d'énergie et l'eau comme donneur d'électrons, comme le font les organismes vivants. Une autre difficulté de la chimie de l'hydrogène réside dans la nécessité d'utiliser le platine, un métal noble dont le cours ne cesse depuis des mois d'augmenter et dont les réserves sont très limitées. C'est ce platine qui catalyse dans toutes les réactions que je viens de montrer la réduction de l'eau, la réduction de l'oxygène ou l'oxydation de l'hydrogène. Les organismes vivants qui mettent en œuvre ces réactions avec des efficacités et des rendements qui sont absolument fascinants pour le chimiste utilisent des métaux beaucoup plus abondants et beaucoup moins coûteux, le fer et le nickel. La dernière difficulté que je vous propose de discuter est celle majeure du stockage de l'hydrogène. En effet, l'hydrogène est un gaz et, comme vous le voyez ici, sa densité énergétique volumique est faible par rapport à celle, par exemple, du gaz ou du pétrole. Cela induit des contraintes extrêmement fortes sur son stockage et sur son transport, notamment pour des applications dans les domaines des transports, avec des véhicules qui, bien sûr, nécessitent des volumes de carburant et des masses de réservoirs qui sont raisonnables. C'est pour ça que, à côté des solutions physiques, gaz comprimé, gaz liquéfié, qui sont pour le moment encore globalement insatisfaisantes, des solutions chimiques originales et prometteuses sont explorées, comme les hydrures métalliques, comme les matériaux solides poreux, comme les boranes. Je voudrais conclure en disant que L'étude du vivant et son impact sur la santé est sans doute l'une des grandes aventures scientifiques de l'humanité. Je suis convaincu que la question de l'énergie au XXIe siècle mobilisera, si le citoyen et le politique veulent bien prendre conscience des enjeux et des urgences, ce qui n'est pas encore suffisamment le cas, je crois, mobilisera physiciens, biologistes, chimistes en particulier, dans une aventure scientifique qui est tout aussi exaltante. Merci. Merci. Et je laisse la parole donc à Nicolas.
À Monsieur Nicolas Bardi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie et Marc Fonca pour me donner cette occasion de pouvoir, devant vous, présenter quelques éléments d'éclairage sur les recherches actuelles menées sur les piles à combustible. Tout d'abord, pour me présenter, je ne suis pas moi-même un scientifique actif, mais plutôt un ingénieur de formation qui a la chance de diriger une petite équipe de développement technologique sur le sujet des piles à combustible, une équipe d'une vingtaine de personnes avec des compétences assez variées, comme vous pourrez le voir au cours de la présentation. Le principe de la pile à combustible, Marc Fonca vous l'a déjà présenté. En termes de matériaux, on a au centre une membrane qui a pour fonction de séparer les gaz, hydrogène et oxygène, qui sinon réagissent fort bien ensemble, mais sans produire l'électricité dont on peut avoir besoin pour des équipements nomades ou des véhicules ou d'autres formes d'usage de l'énergie. Et cette membrane conduit des ions. Alors il existe toute une foultitude de familles de piles à combustible, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur celle qui est probablement aujourd'hui la plus étudiée et qui est la pile à combustible à membrane échangeuse de protons, PEMFC, pour le sigle anglais. Et donc cette membrane-là conduit les protons. Puis de part et d'autre, on a des électrodes qui, comme le soulignait Marc Fonca, contiennent du platine et qui permettent de catalyser les deux demi-réactions, ces électrodes étant elles-mêmes adossées à des structures qui permettent de tenir l'assemblage membrane-électrode et de gérer les arrivées de gaz et la production d'eau. La pile à combustible est aujourd'hui une technologie qui finalement est assez mature. Vous avez là l'image d'un stack, donc un empilement de cellules unitaires. Il y a entre 700 et 800 cellules dans l'image qu'on a développée au CEA pour Peugeot. Les critères de compacité et de performance sont aujourd'hui résolus, y compris pour les applications les plus difficiles, qui sont les applications automobiles. On sait faire aujourd'hui des piles à combustible adaptées à des systèmes variés, depuis la micro-pile à combustible qui vise les marchés du téléphone portable jusqu'à des systèmes de très forte puissance, plusieurs centaines de kilowatts. On est capable de les faire fonctionner en oxygène pur ou en air à différents niveaux de pression, de température en fonction des cahiers des charges des systèmes. Et il existe aujourd'hui de par le monde des centaines de véhicules et autres systèmes stationnaires ou portatifs qui démontrent la pertinence de la pile à combustible, notamment par le fait qu'elle convertit l'hydrogène et l'oxygène en électricité avec un rendement qui est bien supérieur à celui que peuvent offrir les moteurs thermique. Donc ça, c'est résolu. Par contre, il reste un certain nombre de problèmes qui ne le sont pas. Tout d'abord, le coût. Vous voyez là à peu près le coût de fabrication d'un prototype aujourd'hui. Alors, c'est fait à la main. On est à peu près à 4000 euros du kilowatt, alors que la cible pour l'automobile est plutôt à 50. Une bonne partie de ce coût va être gagnée tout simplement par la montée en puissance des marchés. Au fur et à mesure que le coût baisse, on atteint des nouveaux marchés qui permettent d'augmenter la capacité de production, de réduire le coût et donc d'accéder à des nouveaux marchés. Mais il y a un certain nombre de verrous fondamentaux et notamment le platine. Dans les conditions automobiles, on est typiquement à des puissances développées par les piles à combustible de l'ordre de 0,6 watts par centimètre carré pour un chargement en platine total de l'ordre de 0,6 mg par centimètre carré. Ça vous fait 1 gramme par kilowatt. Si vous comptez que le prix du platine aujourd'hui, matière brute, est à peu près aux alentours de 40 euros le gramme, ça vous fait à peu près 4000 euros pour 100 kilowatts, qui est à peu près la puissance dont vous avez besoin pour une voiture. Alors, une voiture, ça se commercialise aux alentours de 8000 euros pour les moins chers. On voit bien que c'est totalement inenvisageable d'avoir la moitié de ce coût qui est la matière première platine. Et l'enjeu est encore plus gros quand on regarde les ressources naturelles sur le platine, puisqu'aujourd'hui, avec 1 ou 2 grammes de platine simplement dans les véhicules, les constructeurs automobiles sont déjà parmi les premiers utilisateurs de ce métaux précieux et rare. Donc il faut réduire au moins par un facteur 10 la quantité de platine. Ensuite, si les performances sont correctes aujourd'hui, la durabilité reste un problème. Il faut multiplier par quelques unités, 4, 5, 10, pour selon les applications, la durabilité, et puis essayer d'avoir des points de fonctionnement qui permettent d'alléger le système, travailler à un peu plus haute température, à des pressions un peu plus basses pour éviter les compresseurs, éviter des composants dans le système qui renchérissent le coût. Alors, au cœur de la pile à combustible, la membrane. La membrane la plus utilisée aujourd'hui, c'est le nafion, donc c'est un polymère perfluorosulfoné avec des chaînes pendantes, des groupements sulfoniques qui permettent la conduction protonique. En fait, ce n'est pas des protons qui circulent, c'est des H3O+, avec des cortèges de molécules d'eau autour. Finalement, la structure de ces matériaux est assez peu connue et les mécanismes de conduction, alors j'ai cité un papier du professeur Klaus-Dieter Kreuer de l'université de Stuttgart qui est en année sabbatique chez nous en ce moment, qui fait le point un peu sur tous ces mécanismes de conduction. Finalement, ces aspects-là sont assez mal connus. Le nafion est utilisé industriellement depuis des années, des dizaines d'années, mais finalement, la structure tubulaire du nafion, une sorte de paquet de spaghettis, a été proposée uniquement au début des années 2000 et est encore sujet à controverse. Quant à la compréhension du lien entre la structure de ce matériau, la longueur des chaînes pendantes, les mécanismes de conduction des protons hydratés dans les réseaux des polymères sont encore relativement mal établis. En tout cas, il y a beaucoup de débats pour savoir si les protons sautent plutôt de SO3H en SO3H ou s'ils sont plutôt au centre des canaux. Ce qui a des conséquences en termes d'innovation, est-ce qu'il vaut mieux avoir des polymères plus fermés ou plutôt des canaux de conduction un peu plus larges, etc., etc. Les conséquences de ces réflexions, elles se sentent directement sur la problématique de la gestion de l'eau dans la membrane. La conduction protonique et donc la résistance globale de la pile à combustible est fonction de la quantité d'eau. Plus il y a d'eau, plus ça conduit bien, plus la résistance est faible, plus le rendement donc est bon. Simplement, les gaz hydrogène comme air, si on peut éviter de les humidifier, ça permet d'alléger le système. Si on a des gaz secs, on assèche la membrane. Si on assèche la membrane, la résistance augmente et les performances décroissent. Tout le problème est que à l'anode, vous avez production de protons qui, par électroosmose, vont aller de l'anode à la cathode. Et inversement, comme à la cathode, vous produisez de l'eau, la cathode est plus hydratée que l'anode et donc l'eau a tendance à rétrodiffuser vers l'anode. Et comment en dynamique, dans des conditions réelles, est-on capable de comprendre véritablement la quantité d'hydratation du système. Donc on a fait par exemple un exemple de recherche assez fondamentale qu'on mène actuellement, des expériences soit à l'ILL, soit à Saclay, où on fait fonctionner une vraie pile à combustible sous un faisceau de neutrons pour, par diffraction des neutrons, essayer de repérer localement dans la membrane en fonction de l'entrée et de la sortie et des courants la quantité d'eau qui est présente et remonter à ce que vous voyez en bas à gauche, c'est-à-dire des profils de concentration en eau entre l'anode et la cathode en fonction des points de fonctionnement. Dernier élément par rapport à la gestion de l'eau dans les membranes, les membranes gonflent énormément en fonction de la teneur en eau. Vous avez en bas une image d'une membrane qui était toute droite, on l'a plongée dans l'eau et elle prend quasiment 10% en volume. Comme elle est serrée dans un assemblage, ça crée des contraintes dans tous les sens. Et ce qu'on pense, c'est les cycles d'hydratation, déshydratation des membranes et la fragilisation mécanique de ce polymère sont en grande partie une limitation de la durée de vie des membranes. Et typiquement aujourd'hui, on a une thèse pour essayer de comprendre les propriétés mécaniques de films minces de polymères. Ça fait typiquement 25 microns d'épais. En compression, ce qui n'est pas évident, en traction c'est beaucoup plus facile, pour essayer de comprendre un peu le lien entre la conduction, la teneur en eau et la compression. Donc je résume un peu les dilemmes. Il faut que ça soit étanche au gaz, il faut évidemment que ça conduise les protons. Une bonne hydratation permet de mieux conduire les protons, mais dans ce cas-là, on a des gonflements et donc des fragilisations mécaniques. Il faut évidemment en parallèle une résistance chimique, qui est un point sur lequel je ne m'étendrai pas aujourd'hui. Ça amène vers des solutions polymères fluorés, mais qui sont plus chères, et puis des épaisseurs évidemment les plus fines possibles pour avoir les résistances les plus faibles possibles, mais plus on va être fin, plus ça va être difficile d'assurer l'étanchéité au gaz, et on reboucle la boucle des problèmes. Trouver d'autres voies, beaucoup de gens travaillent aussi là-dessus. On a beaucoup de grades de nafion légèrement modifiés, avec des chaînes plus courtes, des choses un peu changées. Des renforts mécaniques externes, ce que fait la société Gore, par exemple, qui est aujourd'hui un des leaders dans le domaine des composants pour piles à combustible, qui permet d'assurer une tenue mécanique à l'ensemble. On peut essayer d'ajouter des charges dans le polymère pour essayer de tenir l'humidification à l'intérieur. On peut trouver des polymères différents. Alors là, il y a toute une zoologie sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, de structures polymères qu'on essaye de développer, mais qui, en général, à ce jour, ont des inconvénients qui vont avec leurs avantages et qui font qu'ils n'ont pas l'équilibre finalement plus pertinent que le nafion. Deux approches sur lesquelles on travaille, nous, au CEA, auxquelles on croit beaucoup, qui est d'une part les réseaux interpénétrés de polymères, sur laquelle on travaille avec plusieurs équipes académiques françaises, et on pense pouvoir essayer d'additionner les propriétés des différents matériaux qu'on va mélanger plutôt que d'avoir le point faible de chaque polymère initial, et puis des hybrides organiques-inorganiques où on essaye d'avoir un réseau de conduction protonique par un réseau percolant inorganique greffé et une matrice polymère qui n'assure que la tenue mécanique. D'autres approches sont mises à droite, notamment un des grands enjeux, c'est est-ce qu'on peut arriver à mettre au point un système de conduction protonique sans eau, mais qui bien entendu ne soit pas hostile à l'eau puisque la pile à combustible produit de l'eau. Ce qui permettrait d'avoir des systèmes qui fonctionnent à plus haute température. Aujourd'hui, on est limité à peu près 80 degrés en cœur de pile, ce qui est trop limite par rapport à des systèmes embarqués dans des véhicules. Si on fait un zoom depuis la membrane vers la couche qui est juste à côté, qui est la couche active, on se retrouve dans un domaine assez différent, qui est le domaine de la catalyse. Typiquement, les objets qui sont utilisés aujourd'hui sont des encres avec des agglomérats de carbone qui font à peu près 50 nanomètres de diamètre, et puis des petits grains de platine qui sont posé dessus. Alors, les dilemmes du catalyseur, c'est des dilemmes typiques de tout système de catalyse. Bon, sur le platine, j'ai dit diviser au moins par 10 la quantité, et puis surtout améliorer la durabilité. Le platine, il s'oxyde. Le PT2+, soit il se réduit sur les grains de platine qui ont tendance à grossir, et donc on perd de la surface, on augmente la taille des particules, ou alors il se dissout, puis il vient se réduire quelque part dans le système, au cœur de la membrane. Alors, il y a plusieurs options. La première, c'est n'en mettre que là où il est actif, et le moins possible. C'est un problème surtout technologique, il faut arriver à faire des épaisseurs très fines, à bien mettre le platine au bon endroit. Mais c'est aussi une question théorique, j'ai une question bête que je pose en général à toutes les personnes que je rencontre, qui est quelle est théoriquement, dans un point de fonctionnement donné, la quantité de platine minimale qui, si tous les grains de platine étaient actifs, permettrait de donner la puissance qu'on veut. Et cette réponse bête, elle a pas de réponse évidente finalement aujourd'hui au niveau des systèmes de piles à combustible, parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Deuxième option, c'est de remplacer une partie du platine par autre chose, typiquement par des bimétalliques ou des trimétalliques. Donc on regarde des platines cobalt, platines chrome, platines ruthénium, platines ceci, platines cela. Donc on peut avoir une approche où on fait toute la table de Mendeleïev avec toutes les permutations possibles et imaginables, et ça dans toutes les proportions, mais on voit bien qu'on ne va pas s'en sortir. Et puis, la liste est longue d'autres approches catalytiques, et mes collègues vont en parler, donc je ne vais pas insister là-dessus. Une approche assez originale et assez nouvelle qui est menée aujourd'hui dans mon laboratoire et avec une assez bonne reconnaissance au niveau international, c'est finalement un nouveau modèle descriptif de la partie de l'électrochimie des piles à combustible avec une approche mécanistique hors équilibre qui permet un couplage avec les approches ab initio. Et en fait, on établit une boucle de rétroaction entre la définition de la réactivité, de la sélectivité, de la stabilité du catalyseur à un moment donné, qui est fonction de la structure et qui est fonction de des conditions locales, et puis la modification de la microstructure si une dégradation s'opère. Il y a compétition systématiquement entre toutes les réactions. Soit on a la réduction de l'hydrogène que l'on cherche, mais on peut très bien avoir des phénomènes parasites, de l'adsorption d'un polluant, du CO. Côté cathode, on peut avoir l'oxydation du carbone ou l'oxydation du platine. Donc beaucoup de publications et de résultats qui ont été pris en compte récemment. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de guider un peu la recherche sur les bimétalliques. On fait du calcul par méthode Monte Carlo des structures que peuvent prendre, par exemple là ici, des structures platine cobalt, où on prédit des structures cœur-coquille qui sont assez différentes d'ailleurs de ce qui avait été calculé jusqu'à présent dans la littérature, notamment pour savoir si le cobalt sera plutôt en surface ou à l'intérieur de la particule. Et ensuite, à partir des calculs d'activité qui sont faits plutôt sur des structures idéales par calcul ab initio, on vient essayer de reconstruire quelle peut être l'activité catalytique de ces nanoparticules nanostructurées. Et on intègre ça dans notre modèle mécanistique qui peut permettre, du coup, à long terme, avec la boucle de rétroaction, de prédire l'activité catalytique et la stabilité de ces agrégats à long terme. Évidemment, ça serait plus élégant et plus simple de faire de l'ab initio directement sur des gros agrégats de particules, mais ça, on est limité au niveau scientifique pour le faire aujourd'hui. On a des partenaires en Allemagne, en France, sur ces sujets-là, pour pouvoir faire de la dynamique moléculaire sur ces nanoparticules. Mais il reste encore des tas de questions. Quel est le rôle du substrat carbone, de la distance entre les particules, du nafion, etc., etc. Et puis, ce qui apparaît très clairement, c'est que la structure même de ces particules est fonction de son environnement, en fonction du potentiel ou de la présence d'hydrogène, etc. Il est possible que l'arrangement atomique des particules soit différent. Cela étant, ce genre d'approche nous permet aujourd'hui d'essayer de cibler des profils de concentration platine-cobalt qui seraient les plus pertinents du point de vue de la dégradation, notamment parce qu'il peut y avoir un rôle sacrificiel du cobalt, c'est-à-dire que le cobalt va se dégrader plus vite et va protéger le platine qui est à l'intérieur de la problématique. Je change complètement de sujet, et là ça va être très rapide. sur la thématique de la gestion de l'eau. Alors là, c'est plutôt à l'extérieur de la couche active. On a besoin de feutres ou de papier de carbone qui permettent de tenir la couche active et la membrane et qui permettent de gérer l'arrivée des gaz, hydrogène, oxygène et l'évacuation de l'eau. On a des problèmes qui sont qu'on a des systèmes qui sont fins, quelques centaines de microns, qui sont anisotropes, qui sont évidemment poreux, et que toute la physique diphasique, on est à 80 degrés, hein, donc avec de l'eau liquide potentiellement, et toute la physique des écoulements diphasiques dans ces matériaux-là, elle n'est pas au niveau de maturité qu'on aimerait pour vraiment comprendre le lien entre la structure de ces matériaux et les propriétés en pile à combustible. Tout l'objectif est d'éviter de noyer la pile. Si votre électrode se remplit d'eau, les gaz n'arrivent plus et la réaction s'arrête. Et d'éviter d'assécher la membrane. Donc trouver le juste milieu, et ça évidemment pas sur un point donné, mais plutôt en dynamique, puisque les usages favoriseraient ce type de développement. Donc on travaille beaucoup avec l'IMFT à Toulouse, l'Institut de mécanique des fluides, sur ce type d'approche qui consiste à essayer de regarder et de modéliser au niveau local ce qui peut se passer, d'en tirer des grandeurs moyennes qu'on intègre ensuite dans des modèles moyennés qui nous permettent de faire de la simulation des fonctionnements des piles à combustible et d'essayer de regarder toute cette problématique, c'est finalement par quel chemin l'eau peut sortir, par quel chemin les gaz peuvent rentrer. Et ce qu'on voit bien, c'est que la mouillabilité des matériaux va avoir un impact très fort sur la gestion de l'eau. On travaille en ce moment, par exemple, avec le CNRS CIMAP à Grenoble sur l'étude de la mouillabilité de ces fibres de carbone. À la fois en essayant par du MEB environnemental ici de regarder la croissance des gouttes à l'intérieur des fibres, mais aussi en mesurant des angles de contact externes, internes, entrants, sortants, etc. Malheureusement, on a des matériaux qui ont l'air de changer de propriété aux alentours de 80 degrés, qui est justement la température à laquelle on les utilise. Pour boucler la boucle, il faut faire des modèles moyennés. Alors typiquement, on a des modèles moyennés qui sont soit 1D ou 2D en diphasique, même en triphasique, puisqu'on prend en compte le gel aujourd'hui dans certains systèmes. Il faut faire de la métrologie des composants, les conductivités thermiques, électriques et autres de ces matériaux minces, poreux, ne sont pas simples à calculer ou à mesurer. Et puis pour valider les modèles, il ne suffit pas d'avoir une réponse tension courant en borne de la pile, mais essayer d'aller regarder un peu à l'intérieur ce qui se passe en faisant de l'instrumentation locale. Dernier point, c'est la couche active, c'est le point de rencontre. C'est-à-dire que le catalyseur, il n'est pas comme ça tout seul isolé. Il faut qu'il soit sur un réseau de carbone, un réseau percolant de carbone qui a pour rôle d'amener ou d'extraire les électrons selon de quel côté on se place, d'un réseau percolant de pores qui amène et extrait les gaz et l'eau, et puis d'un réseau percolant aussi du polymère conducteur protonique parce qu'il faut bien amener ou extraire les protons. Alors vous avez là quelques images. En haut à droite, une image que vous avez déjà vue qui est en fait les grains de carbone avec les petits points blancs de platine dessus. Ça, c'est au MEBFEG. Si on est à faible tension d'accélération, on a l'image qui est juste en dessous, c'est-à-dire qu'on voit l'espèce de nuage, la brume de polymère qui entoure tous ces grains de carbone platinés. Et puis vous avez une coupe en microscope électronique en transmission sur une lame d'ultramicrotomie qui permet de souligner un peu la double porosité, c'est-à-dire qu'on a une porosité typique de 50 à 100 nanomètres entre les grains de carbone et puis des mésopores qui sont plutôt de l'ordre de plusieurs centaines de nanomètres ou du micron par lequel on voit bien que les gaz vont circuler. Alors, c'est le point de rencontre, mais c'est aussi le point de rencontre de tous les problèmes. Déjà qu'on ne comprend pas très bien la conduction des protons dans une membrane de 25 microns d'épais, comment elle se produit dans un film de nafion qui fait à peu près 10 nanomètres d'épaisseur. Le nafion est un polymère qui est extrêmement mouillant et il fait des films extrêmement minces. Et là, c'est une des premières images qu'on a réussi à avoir au laboratoire, où ce qu'on voit ici, c'est les plans graphitiques en fait, du carbone support des catalyseurs. Et ce qu'on voit, c'est sur le bord, une petite zone qui fait à peu près 5 à 10 nanomètres, qui est très probablement le film de polymère qui entoure le carbone. On prévoit de faire dans le courant de l'année ou en début d'année prochaine de la tomographie en transmission pour essayer de voir la structure carbone-nafion-platine en trois dimensions et voir un peu comment ça se comporte. L'hydratation du film de nafion et le transport des gaz à l'intérieur n'est pas évident. Le rôle du carbone, on sait qu'il existe sur l'activité catalytique du catalyseur. Quant à la fluidique, on a déjà du mal à la faire dans des papiers ou tissus de carbone, la faire au niveau de ces pores de 50 nanomètres. C'est des problèmes qu'on se pose dans des groupes de travail sur la nanocatalyse et la nanofluidique au sein du CEA. Et évidemment, se pose la question du vieillissement de tout cet ensemble. Alors, pour conclure, il y a plusieurs façons de faire les choses. On peut continuer à travailler un peu sur des structures qui relèvent du hasard avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire finalement on étale une encre avec une porosité qui se forme un peu d'elle-même. Et puis, on fait de la recherche par petits bouts sur des structures modèles pour obtenir des données qu'on transpose ensuite à des modèles moyennés pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, à défaut d'avoir une représentation modélisable de la structure, on peut essayer de la calculer, comme on le fait aujourd'hui sur les nanoparticules, essayer de calculer en fait quelle va être la structure naturellement issue du process de fabrication pour avoir une représentation de cette structure. L'autre option, c'est de dire, dans nos modèles, on a des géométries simplifiées et on voit qu'il y a des géométries qui, a priori, seraient très favorables pour le fonctionnement des piles à combustible. Est-ce qu'on pourrait fabriquer ces structures-là ? Typiquement, ce seraient des structures tubulaires plutôt que des structures de boules. Et là, il faut essayer de trouver les bonnes nanotechnologies pour arriver à fabriquer ces structures-là. À court terme, on est un peu entre les deux. On optimise les process sur les paramètres qu'on est capable de mesurer et en fonction d'intuitions plus ou moins consolidées par les modèles. Les procédés, c'est le quotidien en fait, des laboratoires de développement technologique. On fait des encres, on les étale et puis on regarde un peu quelle est la structure qui en sort. Et sur tous les matériaux dont j'ai parlé, on a des problématiques de procédés. Comment fabriquer les membranes, comment fabriquer, déposer les catalyseurs sur le carbone, comment fabriquer la couche active avec ce triple réseau percolant de pores, de nafions, ou autres conducteurs protoniques et de carbone avec le catalyseur dessus. Et puis, l'aspect tenue mécanique et gestion des fluides avec des feutres, tissus, papier de carbone fonctionnalisés ou imprégnés ou greffés, etc. etc. En conclusion, il y a des défis dans le domaine de la pile à combustible pour tous. Je reviens un peu à ce que je disais au départ. On a une technologie qui aujourd'hui répond à certains points du cahier des charges, pas à tous. Les problèmes qu'on soulève aujourd'hui sont des problèmes de durabilité, sont des problèmes de coût pour remplacer le platine. Et sur ces problèmes-là, on voit qu'on a déjà fait le tour des solutions les plus faciles. Et pour avoir les solutions de demain, il va falloir s'attaquer aux problèmes les plus compliqués. Et faire cet aller-retour entre la recherche fondamentale et le développement technologique, c'est la bonne approche. Et pour ça, on a besoin qu'un nombre toujours croissant d'équipes académiques qui ont une spécialité vraiment particulières viennent se pencher avec leur propre angle de vue sur nos problèmes technologiques, ce qu'on essaye de faire de plus en plus sous forme de partenariat. Donc il y a du boulot pour des chimistes, il y a des boulots pour les électrochimistes, il y a des boulots pour les physiciens, il y a beaucoup de boulot pour les ingénieurs. Je n'ai pas beaucoup parlé des stacks et des systèmes, c'est-à-dire les empilements, mais on a aussi des aspects de thermofluidique, des écoulements dans les canaux, de systèmes auxiliaires qu'il faut développer. Et puis, on a aussi besoin probablement de mathématiciens, des biologistes, des économistes, notamment pour avoir les bonnes études de coût qui nous aident à cibler la R&D sur les points qui seront les plus déterminants au niveau du modèle économique demain. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à vos questions.
C'était Nicolas Bardi, chef du programme Pile à combustible au CEA à Grenoble. Son intervention était précédée par celle de Marc Fontcave, membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université Joseph Fourier à Grenoble. Tous deux s'exprimaient dans le cadre d'une séance de l'Académie des sciences consacrée au défi de l'hydrogène. Cette séance avait lieu le 1er avril 2008 à l'Institut de France. L'énergie est un sujet qui vous intéresse, alors téléchargez sans plus tarder nos émissions consacrées à ce thème. Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, développe les clés et les pièges des différentes énergies du futur. Guy Laval, confrère de Bernard Tissot, évoque les enjeux d'ITER et de l'énergie bleue à travers deux émissions. Enfin, nos économistes s'intéressent aux enjeux économiques du pétrole et des biocarburants. Toutes ces émissions sont en libre téléchargement sur notre site canalacademie.com. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.